Le débat du jour.
Romain Ouzoui.
Bonsoir à tous, bienvenue dans votre débat sur RFI. Alors que le 25e sommet de l'Union africaine s'achève ce soir à Johannesburg, nous posons la question de l'impact de ce rendez-vous diplomatique qui se déroule deux fois par an. Régulièrement, ces grandes réunions sont montrées du doigt pour leur incapacité chronique à produire des décisions majeures. Pourtant, l'Union africaine regroupe tous les États africains, à l'exception du Maroc. Alors avec ce poids-là, est-ce que les sommets de l'Union africaine contribuent malgré tout à améliorer la sécurité sur le continent ? Nous lançons le débat. Et pour y répondre ce soir, nos deux invités en studio, Cédric Abba, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste, auteur de nombreux livres sur l'Afrique. Le plus récent, je vais le citer, Un Niger, la junte militaire et ses 10 affaires secrètes. Et puis Vincent Hugeux, bonsoir.
Bonsoir.
Également spécialiste de l'Afrique, grand reporter à l'Express, auteur d'un de vos ouvrages, hein, Afrique, le mirage démocratique. Vous en avez écrit également d'autres. Merci à vous deux d'avoir accepté l'invitation de RFI. Alors d'abord, c'est ce qui fait l'actualité aujourd'hui à Johannesburg. J'aurais commencé par ça, le départ ce matin en avion du président soudanais Omar al-Béchir, alors que la Cour pénale internationale avait demandé au gouvernement sud-africain de l'arrêter pour sa participation présumée à la guerre au Darfour. Ma première question, Vincent Hugeux, le fait que ça se passe en plein sommet de l'Union africaine, déjà, est-ce que ça ne décrédibilise pas l'institution ? Est-ce qu'on pourrait imaginer la même chose dans un sommet de l'Union européenne ?
Diable, l'institution n'a pas besoin de cet épisode et cette pantalonnade pour être décrédibilisée. La surprise eût été que Omar al-Béchir fût empêché de regagner Khartoum. Il se trouve que les sorties de l'intéressé se sont quand même un peu raréfiées, même s'il se plaît à défier les mandats d'arrêt de la Cour pénale internationale pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide. Mais il est vrai que il y a là une sorte de parallèle presque cocasse entre le formalisme juridique, un tribunal décide de statuer, et la réelle politique, qui fait qu'à l'instant même où le dit tribunal de Pretoria est supposé confirmer que oui, il faut empêcher Omar el-Béchir de regagner le Soudan, eh bien son avion décolle d'une base militaire de la grande banlieue de Johannesburg.
Mais pourquoi justement le gouvernement sud-africain n'a pas suivi l'ordre de la CPI ? Ça montre le mépris que le continent a pour les organisations occidentales.
On sait l'immense défiance que la CPI, qui est souvent dépeinte comme une sorte de tribunal des blancs et de tribunal des vainqueurs de plus, suscite en Afrique subsaharienne. D'ailleurs, il y a un proche de Robert Mugabe, l'actuel président en exercice de l'Union africaine, ce qui est déjà en soi un gag, avait dit dans la journée, il y a des garanties qui ont été données, il est hors de question, évidemment, qu'un chef d'État en exercice soit arrêté dans l'enceinte ou dans le théâtre d'un sommet de l'Union.
C'est dit que, Abba, votre réaction, finalement, l'Union africaine crée une justice dans la justice ?
En l'occurrence, ce n'est pas surprenant qu'on soit arrivé à cette issue. Jeudi, le gouvernement sud-africain a pris un décret accordant une amnistie, parce que le gouvernement sud-africain a anticipé. C'est pour éviter, justement, qu'il y ait cette situation. Le gouvernement sud-africain a pris, puisque l'Afrique du Sud, notamment, on connaît la position de l'Afrique du Sud, l'Union africaine a pris une résolution demandant aux pays africains de ne pas coopérer avec la CPI pour obtenir l'arrestation du président du Soudan du Sud, du président du Soudan. Je rappelle que en 2013,
donc
parce que le Mali,
il y a une volonté sur ce plan,
la défiance est claire. Il y a même eu une tentative de retrait collectif des pays africains de l'Union africaine. Il était même envisagé de tenir un sommet pour opter pour faire un retrait collectif. Il a fallu que les réalistes disent que on ne serait pas crédible de retirer toute l'Afrique de la CPI, parce que les exigences de la présence de l'Afrique et les exigences de la justice sont aussi une revendication de la société civile africaine.
Et c'est ce que je disais.
On ne peut pas le présenter simplement comme une justice extérieure.
Une justice dans le sens où, par exemple, il y a un peu plus de 6 mois, le protocole de Malabo avait déjà jeté les bases d'une cour africaine de justice censée se substituer à la CPI. Donc il y a la volonté de ne pas se soumettre à la Cour pénale internationale en Afrique.
Il y a une perception qui est véhiculée, qui est soutenue par les dirigeants africains présentant la CPI comme une justice exclusivement orienté contre les dirigeants africains. Ça, c'est une et de ce point de vue, la tenue du procès en juillet, le procès de l'ancien président tchadien Hissène Habré à Dakar, va être significatif. Il s'agit dans un des enjeux, c'est de juger Habré pour montrer qu'on peut juger les dirigeants africains sur le continent et de les soustraire. Or, en l'occurrence, il faut regarder le traité fondateur de la CPI lui-même. La CPI dit que c'est lorsque le pays n'arrive pas à juger que la CPI se saisit. Or, très souvent, on ne réussit pas à juger même un ancien ministre. Comment voulez-vous qu'on confie à des États comme ça la possibilité de juger des chefs d'État en exercice? C'est parce qu'il y a une culture de l'impunité sur le continent que la CPI, souvent, s'est saisie pour punir.
Vincent Hugeux, comment obliger les pays membres de l'Union africaine à se soumettre aux décisions de la Cour pénale internationale, contrairement à ce qui s'est passé ce matin?
C'est une posture qui est très difficilement défendable par rapport à un discours populiste, démagogique, qui est un carburant électoral, dans le meilleur des cas, indispensable. Alors, il est vrai que les 8 dossiers aboutis en termes de procédure touche des dirigeants et d'ex-dirigeants africains. C'est une vérité statistique. Ce que l'on oublie de dire, c'est que d'une part, la CPI, avec lenteur, avec les carences qui lui sont propres, certes, travaille sur d'autres dossiers, et il serait temps que l'un de ceux-là se matérialise pour justement couper court à ce procès en partialité. Mais il est vrai aussi que les 8 dossiers, pour la plupart d'entre eux, ils sont partis d'une démarche qui vient d'un pays africain. Mmh. Puisque, là encore, c'est le principe de subsidiarité qu'évoquait Seydic à l'instant. S'agissant d'Hissène Habré, c'est en l'occurrence une juridiction ad hoc qui a été mise en place. Et donc là, il y a une capacité à juger. Mais, si vous voulez, tant que cette CPI, même si à sa tête se trouve une magistrate gambienne, Fatou Bensouda, apparaîtra comme une sorte de bras armé néocolonial, eh bien, aucun des pays qui prétendent être à la pointe de la lutte pour la souveraineté véritable ne se pliera à ces objurgations.
Alors messieurs, on va mettre de côté l'incident Omar El-Béchir qui bien sûr a fait la une aujourd'hui au sommet de l'Union africaine à Johannesburg. Pour revenir au cœur de ce sommet, les sujets à l'ordre du jour ne manquaient pas. La crise au Burundi, la crise en Libye, la question des migrants. Et pourtant, avant même son ouverture, les analystes n'attendaient pas de grandes décisions de l'Union africaine. Car cette institution, le plus souvent, évite, c'est vrai, on l'a vu par le passé, les sujets épineux. Pourquoi, Seydic Abba?
Non, d'abord, il y a un problème de fonctionnement. Il a été établi par les organisations, les ONG, que sur 100% des décisions prises au sommet de l'Union africaine, moins de 30% sont mises en œuvre. Donc, il y a un problème de mise en œuvre de décisions qui sont prises.
Alors, pourquoi ne sont-elles pas mises en œuvre, les décisions?
Mais parce que il y a un problème de sérieux. Les dirigeants eux-mêmes, la façon dont le sommet de l'Union africaine fonctionne, laisse à dériser. Il y a 3 jours de sommet, pour ceux qui y sont allés comme moi. Le premier jour est consacré au discours. Tout le premier jour est consacré au discours. Le deuxième jour, c'est le jour de débat. Et pendant que les débats se tiennent, il y a des chefs d'État qui sont pas là. Le troisième jour, qui est le jour de la clôture, la plupart sont déjà partis. Donc, il y a un problème de format, un problème de sérieux, un problème de suivi de ce sommet. Si on veut leur donner l'efficacité, aujourd'hui, c'est intéressant à voir que la perception que les Africains eux-mêmes, les populations africaines ont de ce sommet, c'est une sorte de rencontre de chefs d'État, de grand-messe de chefs d'État, dont l'efficacité laisse à désirer. La prise en charge des problèmes du continent. On nous avait vendu l'idée que c'était Jean Ping le problème et que si on remplaçait Jean Ping par Dlamini Zuma, la sud-africaine, le problème, l'efficacité allait être améliorée. Il n'en est rien. Aujourd'hui, on se retrouve même dans beaucoup de situations à regretter Jean Ping, dont la voix commence à porter.
Vincent Hugeux, vous êtes d'accord avec Seydic Abba, les chefs d'État africains ne prennent pas au sérieux les sommets de l'Union africaine. Voilà pourquoi il y a peu finalement de conséquences sur le terrain.
Écoutez, l'Union africaine voit son agenda dicté par, grosso modo, un syndicat de satrapes élus ou pas. La primauté de l'intérêt national sur l'idéal panafricain a plombé l'Union africaine, comme elle avait plombé l'OUA jusqu'en 2002. Et il est clair aussi que tous ces chefs d'État craignent des verdicts coercitifs qui pourraient s'appliquer à eux-mêmes, par exemple lorsqu'il s'agit de plaider pour le respect des institutions et de la loi fondamentale de la Constitution.
Ça renvoie par exemple au président lui-même, de l'Union africaine, Robert Mugabe, 90 ans, qui en est à son 6e mandat à la tête du Zimbabwe.
Bien évidemment, et il est clair que tous ses présidents rechignent de plus à céder la moindre parcelle de souveraineté à une entité supranationale. Mais il y a pire d'une certaine manière, c'est que d'abord, c'est là aussi assez dérisoire, mais on oublie toujours le sujet officiel, puisque chaque sommet est supposément attaché à un dossier de fond. Alors par exemple, cette fois-ci, là, à Johannesburg, ça devait être l'autonomisation des femmes. Il n'en a évidemment jamais été question. À Malabo, le 23e sommet, c'était agriculture et sécurité alimentaire. Tout le monde l'a oublié. Pourquoi ? Parce que tous ces sujets sérieux, de fond, eh bien, ils sont plombés par trois choses. Les conflits armés, et on l'a vu encore cette fois-ci.
Parce qu'il y a urgence à intervenir sur ce dossier-là, davantage que sur l'autonomisation des femmes, sans doute.
Conflits armés, crise électorale et institutionnelle, bien sûr, et querelle de préséance. Ah, il y a urgence. Mais quand vous regardez l'ordre du jour de ce sommet de Johannesburg, il est le même que l'ordre du jour du sommet d'Addis Abeba, voilà, 6 mois, et il est grosso modo le même que celui du sommet de Malabo, il y a 1 an.
Pourquoi ?
Parce que, jusqu'à maintenant, l'Union africaine s'est toujours illustrée par ses palinodies, ses calculs, ses arrière-pensées et son retard à l'allumage. Écoutez, ça fait quand même 20 ans qu'on nous parle d'une force africaine en attente, la bien nommée, puisque pour le coup, elle se fait attendre. Et maintenant, on a recyclé ça avec un nouveau concept, capacité africaine de réponse immédiate aux crises. Donc, il y a du verbe, il y a de la rhétorique, il y a des discours. Mais quand il s'agit de monter de manière opérationnelle une force préventive ou de traitement d'un conflit, eh bien, les égoïsmes nationaux, les calculs de géopolitique régionale finissent toujours par l'emporter.
Sédi Kaba, c'est un manque de courage politique ?
Oui, il y a, bien sûr, le manque de courage politique. Et je pense que une des clés pour que l'Union africaine soit efficace, c'est aussi sa capacité à s'autofinancer. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, l'Union africaine est financée à près de 77 à 80% par l'extérieur. Quand on prend une organisation au sérieux, et sachant que le principe, c'est que celui qui paye commande, on ne peut pas dire que l'Union africaine peut être efficace puisqu'elle n'arrive même pas à s'autofinancer. La preuve du sérieux et de la rigueur, c'est quand même que les pays africains commencent à financer eux-mêmes les différents programmes. Un exemple, par exemple, lorsque vous prenez le cas de l'AMISOM, que l'on présente souvent comme un succès, l'AMISOM est financée quasi exclusivement par l'Union européenne. C'est vrai que les Nations unies fournissent le matériel roulant, tout ce qui est létal, mais la plupart des soldes des militaires de l'AMISOM sont pris en charge. Donc on ne peut pas confier à l'extérieur le financement de l'Union africaine et espérer que l'Union africaine soit efficace.
Vincent Hugeux, si finalement on a l'impression que c'est effectivement l'Union africaine, c'est une institution voulue par l'Occident et à laquelle l'Afrique ne croit pas, c'est peut-être pour ça qu'il y a ce manque de courage politique.
L'Union africaine avait vocation à raviver le rêve panafricain des grands fondateurs de Kwame Nkrumah, de Sékou Touré, de quelques autres. Donc ça n'est pas un instrument occidental, c'est même parfois d'ailleurs une institution qui tend à s'opposer à des prétentions néocolonialistes réelles ou fantasmées, mais le problème, il est intrinsèque. Le nerf de la guerre est aussi celui de la paix. L'exemple que donnait Sédic à l'instant, cette absence d'autonomie financière. Un rapport a été confié, par exemple, à l'ancien chef d'État nigérian, Olusegun Obasanjo. Il a proposé des remèdes très pratiques. Taxes sur les billets d'avion, taxes sur les nuitées d'hôtel, etc. Eh bien, on n'a même pas été capable de se mettre d'accord parce que tel pays a considéré que ceci serait une entaille à ses recettes touristiques. L'AMISOM, cette force donc qui a été déployée en Somalie, qui est souvent présentée comme l'un des rares succès de l'Union africaine en termes de prévention de traitement des conflits, eh bien, comme on le disait à l'instant, elle est financée à 100% par des ressources extérieures, notamment occidentales, ce qui n'empêche pas d'ailleurs de vouer aux gémonies les mêmes occidentaux. Et par ailleurs, c'est en fait une addition de contingents qui ont reçu des sphères d'influence et qui, de fait, c'est vrai, ont réussi à bouter les Shebabs, donc les islamistes somaliens, hors de la plupart des quartiers de Mogadiscio. Mais vous avez d'un côté le Burundi et l'Ouganda, leurs contingents qui s'occupent de la capitale. L'Éthiopie, pour des raisons de géopolitique locale, s'occupe du flanc ouest. Et vous retrouvez les Kenyans dans l'extrême sud. Donc on ne peut même pas dire que l'AMISOM, qui apparaît comme, d'une certaine manière, le parangon de la réussite de l'Union africaine en termes militaires et conflits, soit pur et parfait.
Finalement, Sédi Kaba, la vacuité des sommets de l'Union africaine démontre finalement qu'il est impossible aujourd'hui de se mettre d'accord parce qu'il y a trop d'États, plus de 50 États.
Non, c'est pas, le problème n'est pas le nombre, le problème c'est l'efficacité. Il faut trouver les moyens et avoir la volonté d'être efficace. Pour être équitable, il faut rappeler que au moment le 25 mai 63 de la création de l'Organisation de l'Unité Africaine, l'agenda était d'accompagner la libération du continent, d'accompagner notamment les colonies portugaises, de les accompagner à l'indépendance. Cet agenda a été quasiment rempli puisque est de libérer le continent du joug de l'apartheid. Ça a été. Mais à partir de là, on n'a pas réussi à faire la mutation. On est rentré dans de logiques de complaisance où les pays non démocratiques sont plus nombreux que les pays démocratiques et imposent les freins à la démocratisation. On a essayer, comme on a, les pays africains ont pris conscience qu'il faut être plus efficace lors de ce sommet, on a créé un deuxième sommet. Avant, c'était un sommet annuel. Maintenant, il y a un sommet en janvier à Addis Abeba qui est, disons, le sommet budgétaire où c'est défini le budget. Ensuite, un sommet intermédiaire qui se tient hors d'Addis Abeba. On pensait avoir trouvé les moyens d'efficacité.
Et surtout,
mais
il y a des outils.
L'ajout n'a pas augmenté l'efficacité.
Et surtout, il y a des outils pour prendre des décisions contraignantes. Il y a la Charte africaine de la démocratie, des élections de la gouvernance. Il y a le Conseil de paix et de sécurité. Il y a le pacte panafricain contre l'agression. Tout ça, ça devrait justement contribuer à donner de vrais gages de sécurité sur le continent.
Prenons exemples concrets. L'Union africaine retarde l'allumage sur la crise Ebola, pour prendre cette fois-ci un dossier de nature sanitaire. Retard à l'allumage sur la République centrafricaine, sur le Mali. Sur le Burundi, on entend la présidente Zuma nous expliquer qu'il faut exhorter les parties prenantes au dialogue. Merci d'être venu, on n'avait pas besoin de ça, on savait. Et prenez la question des migrants, qui devait être aussi à l'ordre du jour, d'ailleurs, de cette édition de Johannesburg. Mmh. Eh bien, aux migrants, on nous produit des discours compassionnels, apitoyés, mais rien de pratique, rien de concret. Est-ce que vous savez qu'il y a, quelque part, en Afrique du Sud, un parlement panafricain? C'est une sorte d'entité ruineuse et fantomatique qui ne produit que des notes de frais. Il y a un conseil économique, social et culturel. Que fait-il? Tout le monde l'ignore. Et il y a donc, vous y faisiez référence tout à l'heure, cette Cour africaine de justice. On est dans un univers de coquilles vides.
À Banjul.
Oui, en Gambie en plus. Bon, dire. Et simplement, pour nuancer un peu le propos, qui peut paraître péremptoire, on ne peut pas accabler de griefs la seule commission. Au fond, la commission, elle est pieds et poings liés par des chefs d'État qui, encore une fois, n'acceptent pas de renoncer à la moindre parcelle de souveraineté.
Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? On a évoqué des pistes de financement supplémentaires. Je voudrais en évoquer une autre de piste. Est-ce qu'il ne faut pas, finalement, tout simplement modifier les institutions, modifier cette Union africaine, maximiser davantage le rôle des institutions régionales, la SADC, la CDAO, qui sont davantage représentatives d'une cohésion que l'Union africaine?
Oui, c'est une demi-solution. L'efficacité aujourd'hui, on la retrouve au niveau de la CDAO. La CDAO avait même acté le principe de on ne peut pas faire une modification constitutionnelle 6 mois avant les élections, mais ça n'a pas empêché qu'il y ait des situations. Moi, je crois que il faut changer le mode de fonctionnement de l'Union africaine. Mmh. Aujourd'hui, tout pays africain, quel qu'il soit, a le droit d'être membre de l'Union africaine. Il faut changer, il faut définir des critères. Commencer par le système démocratique. Pour être membre de l'Union africaine, il faut tenir des élections transparentes, libres, etc. Il faut avoir des critères d'adhésion, comme à l'Union européenne. Quand tout pays européen doit remplir un certain nombre de conditions. Donc il faut aller vers cela. Je suis sûr que beaucoup de pays ne le voudront pas, mais tant qu'on mettra ensemble des pays démocratiques, des dictatures, etc. Et là où les pays qui ne sont pas portés vers les valeurs démocratiques sont plus nombreux, c'est clair que l'Union africaine ne va pas avancer.
Vincent Huguet, on conclut avec vous.
Oui. Votre question, Romain, renvoie au débat théologique originel entre les partisans d'une intégration à marche forcée. On décrète sur un mode incantatoire l'unité africaine et les partisans d'une intégration progressive qui s'adosse d'abord à des États dignes de ce nom, à des ensembles régionaux ou sous-régionaux cohérents et ensuite, à l'échelon du continent, à des politiques communes. On a mis la charrue devant les bœufs. Il serait temps de remettre les bœufs devant la charrue.
Merci Vincent Hugeux pour cette conclusion. Journaliste, spécialiste de l'Afrique, reporter à l'Express, auteur du livre Afrique, le mirage démocratique. Merci à vous. Sédic Abba, également journaliste, également spécialiste de l'Afrique et auteur de nombreux livres sur l'Afrique. Et je citerai une nouvelle fois celui-ci, un Niger, la junte militaire et ses 10 affaires secrètes. Merci à vous d'avoir écouté ce débat que vous pouvez retrouver sur notre site internet rfi.fr.